Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En matière de santé, l'organisme est soumis aux facteurs génétiques, à l'environnement, aux virus, aux bactéries, à des maladies pour lesquelles la médecine intervient une fois les symptômes établis et le diagnostic posé, ordonnance, traitement, rééducation, mais il est possible aussi avant l'apparition des troubles. Et cette prévention est essentielle lorsque l'on veut agir, prendre soin de sa santé et de celle de ses proches. Se protéger, favoriser les défenses naturelles, entretenir sa forme, une prévention qui repose sur l'arrêt de mauvaises habitudes, mais aussi, vous le savez, s'appuie sur une alimentation saine et une activité physique régulière. Comment manger en respectant son corps? Quel exercice physique privilégier pour se sentir en pleine forme? Comment concilier la pression du quotidien et une hygiène de vie digne de ce nom? Et apprendre aussi à identifier les pièges, trop d'heures devant un écran, pas assez de temps consacré au repas, grignotage, abandonner la marche au profit de déplacements en véhicule motorisé, et puis les cas particuliers en fonction des périodes de la vie et éventuellement de certains problèmes de santé qui vont imposer des ajustements, des adaptations et même des contre-indications. Sport et nutrition, c'est notre programme du jour dans Priorité Santé. Émission spéciale sport-nutrition en compagnie de nos deux chroniqueurs autour de cette table pour répondre à toutes vos questions. Docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et vous êtes déjà nombreux à avoir joint le numéro de Priorité Santé, le 33 84 22 75 75. Continuez à nous appeler, bien sûr. Laissez-nous vos messages sur notre page Facebook.
Priorité santé sur RFI.
Alors on va donner la parole bien sûr aux auditeurs dans quelques instants, mais si vous le voulez bien pour commencer, Stéphane Besançon, on va revenir sur une mise en garde très récente de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, une sorte de gendarme de la santé en France, avec en cause, Stéphane, certains compléments alimentaires, des produits utilisés en cas de troubles articulaires. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit de compléments qui contiennent de la glucosamine et chondroïtine, qui sont des substances qu'on retrouve dans l'organisme et qui ont un rôle dans l'élasticité des tissus de la peau. Et du coup, qui sont utilisés pour ça, pour diminuer, enfin, ça, c'est l'argument commercial, diminuer les douleurs articulaires. Et sur l'avis qui est rendu, en fait, il y a eu des personnes qui se sont plaints de complications ou de problématiques. Du coup, il y a eu une revue de la littérature qui a été faite et d'essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passait et d'analyser ces cas. Donc aujourd'hui, les produits n'ont pas été retirés du marché, mais par contre, il y a eu un avis avec des alertes pour certains types de personnes de faire attention, des gens qui ont des allergies alimentaires, notamment crustacés, des personnes aussi diabétiques, prédiabétiques. Il faut pour ce type de personnes ne pas prendre ce type de complément, puisqu'il y a des réactions annexes qui se mettent en jeu. Aussi pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants, le niveau de connaissance a été jugé non suffisant, donc il n'est pas recommandé. Donc l'idée, c'est pas de les interdire complètement, mais c'est plutôt de dire il faut un avis médical et faire attention à certains types de populations.
Ce sont des produits qui sont en vente libre, Stéphane Besançon. Ça veut dire que même quand on va dire dans un magasin diététique, voire même au supermarché, dans des rayons de parapharmacie, on ne peut pas prendre n'importe quoi.
Oui, tout à fait. Et alors, c'est ce qui est intéressant aussi dans l'avis qui est rendu, c'est de dire que là, c'est l'exemple d'un complément, mais effectivement, c'est le cas pour beaucoup de compléments. Et c'est la recommandation aujourd'hui, qui est une recommandation qu'on retrouve dans beaucoup de pays, c'est quand même, avant de commencer à prendre des compléments, pour éviter aussi de les mélanger, d'en prendre trop ou d'en prendre qui ne vont pas ensemble, c'est vraiment de prendre un avis médical. Est-ce que j'en ai besoin ou pas? Et si j'ai besoin de quoi?
Et aussi, on voit des gens qui retirent certains aliments de leur menu et qui essayent de compenser avec des compléments. Donc, on va en reparler bien sûr tout à l'heure avec les questions des auditeurs. On va le voir, l'essentiel, c'est de bien manger quand on est à table.
Oui, alors déjà, ça, c'est vraiment la base. Normalement, le complément, il doit venir compléter quand il y a un problème spécifique et il ne doit pas venir justement faire de l'alimentation synthétique. Et puis, en plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on ne sait pas réellement encore, il y en a beaucoup, s'il fonctionne réellement ou pas.
Et puis aussi, tous les problèmes, il y a l'automédication dans dans cette matière-là particulièrement.
Oui, alors ça, il y a l'automédication, il y a aussi le résultat réel de certains compléments. Je sais que Marion Nessel, qui est une des grandes nutritionnistes américaines, a publié un billet il n'y a pas très longtemps sur les compléments pour la mémoire, en disant réellement, si ça marchait vraiment, ce serait très bien, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve réellement que ces compléments permettent de développer de la mémoire. Alors peut-être que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'études, alors peut-être que dans quelques années, on aura soit des preuves négatives, soit positives. En tout cas, aujourd'hui, ça manque beaucoup de données robustes pour dire exactement qu'est-ce qui se passe.
Alors, je me tourne vers vous, docteur Jean-Marc Sen. Dans le domaine du sport aussi, on retrouve ces fameux compléments alimentaires. De quel type de produits s'agit-il ?
Mais oui, absolument. Il y a énormément comme ça de produits qui ont des véritables allégations, des allégations qui sont souvent effectivement pas toujours démontrées, avec une puissance marketing absolument gigantesque, et qui sont vraiment dans différentes dimensions. D'abord, bien sûr, l'objectif, c'est le développement de la masse musculaire. Alors, certains acides aminés, des protéines, la créatine sont proposés dans ce but-là. Quelquefois, ça peut être pour essayer de diminuer de la masse grasse. Alors, on parle de brûleurs de graisse. Là, la caféine, la carnitine, l'éphédra qui cherche à augmenter l'activité métabolique sont utilisés. Et puis, quelquefois, il y a des compléments aussi qui cherchent à augmenter la performance psychique ou physique. On parle d'effet ergogénique. Là aussi, la caféine, le cola, la taurine sont souvent proposées pour cela.
Alors, on entendait tout à l'heure avec Stéphane Besançon qu'il y avait des populations, on va dire, à qui on déconseillait certains produits. Est-ce que c'est la même chose pour ces produits pour les sportifs ? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ?
Absolument. Il y a vraiment des précautions et il est même déconseillé d'utiliser ces produits, par exemple, qui contiennent notamment, entre autres, la caféine chez les personnes qui ont des risques cardiovasculaires, qui ont des cardiopathies, des maladies cardiaques, qui ont des problèmes, un problème rénal, hépatique, neuropsychique, neuropsychiatrique également. On sait que chez les enfants, les adolescents ou les femmes enceintes et allaitantes, toutes ces populations-là, on déconseille de prendre des compléments alimentaires. Alors, il faut à chaque fois, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, discuter les objectifs avec un professionnel de santé. C'est médecin ou diététicien, donc qui est un paramédical, qui est habilité à discuter ces objectifs. Méfiance sur les compléments alimentaires qui contiennent de la caféine avant et pendant une activité sportive. Eh bien, ça joue évidemment sur la fréquence cardiaque, ça masque l'effet de fatigue et là aussi, ça peut entraîner un certain nombre de dangers. Et puis, il faut se méfier aussi de l'utilisation de plusieurs compléments alimentaires en même temps ou de l'association à certains médicaments. Là aussi, ça peut être de véritables bombes à retardement. Et il faut éviter tout cela, il faut déconseiller tout ça. Enfin, si véritablement il est démontré qu'il y a un intérêt à compléter son alimentation par un complément alimentaire, à ce moment-là, plutôt aller vers des produits qui sont conformes. Par exemple, certains produits sont normés. Il existe depuis quelques années maintenant en France, par exemple, la norme AFNOR, NFV94001.
C'est précis.
Voilà. Et qui permet de dire, voilà, ce complément ne contient pas d'éléments dangereux pour votre santé. Et donc, je crois que c'est vraiment le message à donner. Méfiance pour les compléments alimentaires.
Principe de précaution. Voilà pour les explications. Tout de suite, on retrouve les auditeurs en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Et on commence en partant au Burkina, à Ouagadougou, où l'on vous retrouve, Souleymane. Bonjour Souleymane.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
Voilà, moi ma question est la suivante. Je suis vraiment une personne élancée. Bon, je ne fais pas d'exercice sportif, mais je marche beaucoup.
Oui.
Est-ce que la marche peut vraiment maintenir la forme là?
Souleymane, vous nous dites je suis élancé. Est-ce que vous pouvez nous donner votre poids et votre taille pour que Jean-Marc Sen, Stéphane Besançon puisse un petit peu se faire une idée justement de votre physionomie, de votre corpulence?
Ok, 56 kilos. 1m113.
Est-ce que vous ne voulez pas, Souleymane, c'est on va dire, mincir davantage?
Non, je vais rester comme ça.
Vous voulez rester comme vous êtes, vous êtes bien comme vous êtes. Donc, votre question, c'est si vous marchez beaucoup, est-ce que je vais mincir davantage? C'est bien ça?
C'est ça.
Docteur Sen.
Bon, alors Souleymane, effectivement, eh bien, vous êtes sahélien, donc vous êtes élancé. Hein, ça, c'est le profil typique. Alors, il faut savoir que la marche est bien sûr une très bonne activité, accessible parce que il suffit d'avoir de bonnes chaussures ou en tout cas des souliers corrects et puis de partir marcher pour pouvoir avoir cette dépense énergétique très facilement. Alors, est-ce que ça va vous permettre de maintenir votre état de santé? Oui, c'est d'ailleurs l'activité qui est généralement recommandée. Quand on veut maintenir son état de santé, c'est la première activité qui est proposée. Pour maintenir votre poids, eh bien, on va dire que ça sera la conjonction d'entre votre dépense énergétique lors de la marche, ce que vous allez apporter, bien évidemment, lors de votre repas, qui va faire que vous allez garder votre poids. Et puis, il faut savoir qu'il existe un phénomène physiologique tout au long de la vie, qui est la prise de poids en fonction de l'âge. C'est-à-dire que quand vous allez prendre un petit peu d'âge, eh bien, généralement, on prend un tout petit peu de poids et puis sa composition corporelle, on prend un tout petit peu de masse grasse. Mais ce qui est essentiel, c'est si vous êtes en bonne santé, si c'est votre poids physiologique, eh bien, continuez à marcher régulièrement, tous les jours au moins 30 minutes, bien évidemment, et puis tout cela vous maintiendra parfaitement en forme.
Souleymane, dans votre famille, des fois on parle d'hérédité en matière de corpulence. Comment sont par exemple vos parents? Ils sont, on va dire, plus corpulents que vous-même, que vous qui vous décrivez comme mince?
Oui, puisque, oui, à l'âge, à mon âge, mon papa était comme moi, la corpulence. Mais à l'heure là, il a un peu grossi. Bon, est-ce que moi, je vais aussi grossir comme ça?
Une inquiétude sur le changement de corpulence avec l'âge, Stéphane Besançon. Est-ce que ça dépend, ce facteur, de l'hérédité purement et simplement, ou vraiment c'est lié au mode de vie et à l'alimentation?
Il y a un peu des deux. Ça va vraiment dépendre des personnes. Il y a des gens qui vont avoir plus de prédisposition que d'autres. Après, le phénomène quand même aussi métabolique est que on le voit bien, de toute façon, dans la population, les gens ont tendance à plutôt prendre du poids en augmentant en âge, mais aussi parce que l'activité physique diminue, que les gens font aussi souvent moins attention à l'alimentation. Donc les deux se cumulent. Mais je pense qu'en gardant une alimentation équilibrée, en continuant à faire de l'activité physique, et comme l'a dit Jean-Marc, la marche est une très bonne activité physique, normalement il n'y a aucune raison de perdre du poids si toutes ces constantes-là restent en jeu. Et après c'est à surveiller un peu, et s'il y a prise de poids, c'est de regarder est-ce que c'est parce que moins de temps de faire de l'activité physique, est-ce que par exemple changement d'habitude de travail, etc., et du coup l'alimentation change, peut-être plus de hors domicile, des choses comme ça, mais tant que l'activité physique, l'alimentation et le poids et tout réagit bien ensemble, il faut pas trop se questionner et continuer comme ça.
Un peu d'insouciance, Souleymane. Très bonne journée à vous à Ouagadougou. Et on part pour le Cameroun, pour Garoua, où l'on retrouve Yaya. Bonjour Yaya.
Bonjour Catherine.
C'est Caroline, c'est pas grave.
Alors, oui, bonjour Caroline.
Yaya, on vous écoute, allez-y.
Caroline, je fais 1m78 pour 87 kilos.
Oui.
Alors, durant le dernier mois de jeûne, durant le dernier ramadan, j'ai eu à prendre 2 à 3 kilogrammes. Mm-hmm. Or, je passais toute la journée sans manger, je mangeais qu'à partir de 18 heures, mais je me suis rendu compte que j'ai plutôt enregistré une augmentation de poids. Alors, j'ai annulé certains repas de la journée. Par exemple, le petit déjeuner, je ne le prends plus. À midi, je mange peut-être un yaourt et un croissant. Mais par contre, en soirée, je mange énormément. Compte tenu des habitudes que j'ai eu à enregistrer pendant la période du jeûne, je mange beaucoup plus en soirée. Et je mange beaucoup de viande. Alors, mes questions sont les suivantes.
Oui.
Mm-hmm. Peut-on perdre du poids en annulant quelques repas de la journée?
Mm-hmm.
J'enchaîne ou bien...
Vous pouvez les enchaîner, mais moi j'ai une question à vous poser. Vous voulez perdre du poids, c'est bien ça?
Je vous suis d'accord.
Vous voulez perdre du poids, c'est ça, hein, Yaya?
Oui, je veux perdre du poids.
Alors, moi j'ai juste une question à vous poser, là, comme ça, avec ce que vous venez de me dire. Vous avez constaté que vous aviez pris du poids pendant le ramadan. Alors, comment se fait-il que vous continuiez à suivre ce rythme de manger tout concentrer plutôt à un seul repas, alors que vous avez vu, par vous-même, vous l'avez dit, que ça vous faisait prendre du poids. Ce que je ne comprends pas, c'est vous avez constaté qu'il y avait un problème quand vous concentrez sur un repas, et vous le faites. Alors moi, j'ai une question naïve, hein, d'auditrice, parce que là, je suis pas médecin. Pourquoi vous faites quelque chose alors que vous savez que ce n'est pas bon pour votre objectif de perdre du poids?
Justement, Caroline, je ne sais pas si ma prise de poids est due à ce problème-là.
Donc c'est Stéphane, Besançon qui va vous répondre tout de suite.
Oui, alors il y a deux problématiques très claires. Il y a une problématique d'organisation de la journée alimentaire, on va dire de fréquence des repas, et il y a une problématique aussi dans ce que vous avez dit de typologie des aliments. Donc on va commencer par la fréquence. Donc effectivement, ce que vous avez constaté pendant le Ramadan, c'est quelque chose qu'on constate énormément, le fait de pas manger la journée, mais de manger énormément le soir, en général, amène plutôt à une prise de poids, surtout que les repas du soir, comme vous l'avez dit très bien pour vous, du coup, ils sont compensatoires, ils sont plus gros, plus importants. Donc, en général, on arrive à une prise de poids. Il faut, du coup, et l'organisme, on le sait aujourd'hui, n'aime pas du tout les sauts de repas et les privations, parce qu'il va plutôt réagir en « quand j'ai des aliments, je vais les stocker au cas où vous me repriviez d'aliments ». Donc, il faut absolument repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire petit déjeuner plutôt important, repas du midi correct et repas du soir plutôt léger et pas trop tard, parce qu'à un moment vous avez parlé de repas tardifs, donc pas trop tard et plutôt léger. Donc ça, j'allais dire que c'est sur la fréquence. Après, sur les types, si le midi vous mangez par exemple croissant, un croissant c'est très salé, c'est très gras, mais il faut peut-être mieux aller vers des légumes, et la viande pareil, la viande, beaucoup de viande, si c'est de la viande rouge par exemple, les recommandations aujourd'hui c'est plutôt deux fois par semaine que beaucoup de viande, parce que là aussi, si c'est beaucoup de viande rouge, c'est plutôt une viande qui, on va dire, grasse. Donc déjà, plutôt d'aller de la viande rouge à la viande blanche, et puis de limiter la viande à deux fois par semaine.
Et puis toutes les viandes aussi qu'on cuisine en sauce.
Oui, tout à fait. Alors en plus, si elles sont cuisinées en sauce, donc j'allais dire, les deux grandes recommandations, c'est faire le plan alimentaire dans l'autre sens. Petit déjeuner copieux, repas du midi moyen et puis le soir plus léger. Et dans la typologie des aliments, remonter la part, les fruits, les légumes, diminuer un peu la viande et le midi, choisir quelque chose d'un peu un peu moins gras, par exemple, que des croissants. Si c'est pour perdre du poids, ça va être, ça peut être une céréale avec une sauce, avec un peu de légumes, quelque chose. Et faire attention aux quantités aussi, parce que quand vous avez dit le soir je mange du coup beaucoup, si vous sautez deux repas pour manger énormément après, non, il faut mieux étaler ça.
Yaya, est-ce que ça correspond à vos envies, à vos possibilités? Est-ce que vous avez envie d'inverser la tendance pour petit déjeuner, déjeuner moyen, et puis après on y va plus doucement le soir?
Oui, bien que j'ai constaté, j'ai voulu le faire récemment, mais lorsque je prends un tout petit peu, un petit gâteau ou bien une tasse de café, je me sens, j'étouffe pratiquement.
Le matin, vous n'êtes pas capable de manger?
Oui, le matin, je suis plus capable de manger. Je ne sais pas, peut-être que c'est dû à cette habitude, ou je ne sais pas, mais c'est devenu que lorsque j'essaye de prendre le petit déjeuner, j'ai pratiquement pas d'appétit. J'ai l'impression que mon estomac est pratiquement noué.
On peut imaginer qu'un changement comme ça, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement.
Ah oui, Caroline.
En tout cas, y aller progressivement. Peut-être aussi c'est lié à l'heure de votre réveil. Peut-être pas forcément prendre le petit déjeuner dès le réveil. Attendre un petit peu et puis manger peut-être, je sais pas à quelle heure vous levez le matin, très tôt?
Non, aux environs de 8 heures.
Ah oui, alors non, c'est pas très tôt, non. Si je puis me permettre, c'est pas très tôt.
Non, il faut essayer de redémarrer progressivement et de voir comment l'organisme réagit, et pas vouloir forcer non plus et reprendre les habitudes de progressivement.
Il vaut mieux y aller doucement pour que ça marche sur le long terme. On vous souhaite une très très bonne journée à Garoua. Yaya, on part pour la République démocratique du Congo où l'on retrouve à Bukavu Carole. Bonjour Carole.
Bonjour Caroline, bonjour à notre invité et bonjour aux auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors nos deux chroniqueurs en plateau qui sont à votre écoute, allez-y Carole.
Je suis âgée de 24 ans, je mesure 1m73 et je pèse 87 kilos. Enfin, cela fait pratiquement plus de 3 ans que j'essaye de perdre du poids, mais je n'y arrive pas. J'ai eu recours à plusieurs méthodes trouvées ça et là sur Internet. Et franchement, le résultat n'a pas été satisfaisant. Et en date, le dernier régime que j'ai dû adopter, il est celui d'un régime au citron. Ça veut dire, j'utilise le citron donc pendant une semaine, le premier jour avec un citron et un verre d'eau. Le deuxième jour, 2 citrons et 2 verres d'eau. Et jusqu'au 7e jour, donc, j'applique 7 citrons et 7 verres d'eau. Et la semaine qui suit, j'essaie un peu d'inverser la tendance. J'y vais en descendant. Alors, jusque-là, je n'ai pas vraiment eu de résultats. Et au cours de 2 mois et demi, je n'ai pas vraiment perdu énormément de poids, à peu près 2 à 3 kilos. Alors, sauf que ce régime, vraiment, il n'est pas supportable du point de vue santé, parce que ça me cause énormément de problèmes à l'estomac. Et je sens comme s'il y a des brûlures au niveau de l'estomac à cause de ce régime. Alors, ma question, elle est de savoir...
Oui, je vous écoute, allez-y.
Alors, ma question, elle est de savoir si je devrais continuer avec ce régime, étant donné qu'il me cause énormément de problèmes au niveau de l'estomac, ou bien notre invité pourrait peut-être me proposer une autre méthode alternative pour essayer un peu de réduire mon poids, parce que je ne me sens pas vraiment à l'aise avec énormément de poids et mon taille.
Carole, moi j'ai une question à vous poser. Vous me parlez de régime. Moi, vous me parlez plutôt de jus de citron. Hein. Moi, c'est pas ce que j'appelle un régime. Vous mangez quoi à côté de ces jus de citron que vous avalez à... Il y a une expression française un petit peu triviale qui dit à tire-larigot. Moi, je vous dirais que vous prenez du jus de citron à tire-larigot. Vous mangez quoi à côté?
J'ai dit réduire aussi le nombre des repas au niveau de la raison. Je n'ai qu'un seul repas pendant un jour, et le jour suivant un autre repas. Donc, on m'a demandé d'accompagner, selon les conseils que j'ai reçus sur Internet, d'accompagner ces seuls repas avec cette combinaison des citrons et beaucoup d'eau.
Un seul repas par jour, du citron et de l'eau.
Oui.
Stéphane Besançon.
Mais de nouveau, alors peut-être que Jean-Marc reviendra sur le côté brûlure estomac, juste pour dire que s'il faut le redire, le citron aujourd'hui c'est pas un amaigrissant, c'est pas, on retrouve ça beaucoup sur internet, il y a eu l'ananas à un moment, il y a le citron maintenant, puis ça tourne en cure comme si ça, alors il y a plusieurs arguments, ça brûle les graisses, ça fait ci, ça fait ça, clairement non, c'est pas un régime, il faut revenir à mon avis, tout simplement, une alimentation équilibrée, et surtout la clé, et je pense que Jean-Marc va en parler, c'est l'activité physique. À un moment, c'est vraiment la clé, c'est de rééquilibrer l'alimentation et de remonter l'activité physique, mais il faut le dire et le redire. Et un dernier point, c'est de faire très attention à Internet, parce qu'Internet ne vous questionne pas, ne vous parle pas, alors qu'un professionnel de santé, qu'il soit nutritionniste ou médecin, va prendre vos conditions de vie, va prendre vos besoins et va adapter quelque chose. Donc c'est vraiment important de faire attention avec Internet et des recettes toutes faites. Elles sont, chacun a des besoins différents, il faut vraiment être méfiant, il faut aller voir un professionnel de santé.
Et vous l'avez souligné tout à l'heure avec l'autre auditeur, concentrer toutes les alimentations de la journée en un seul repas, à part bien sûr quand on a des obligations traditionnelles, culturelles, etc., ce n'est pas une bonne chose.
Non, pas du tout. Et le citron à côté ne viendra pas compenser.
Et moi, ce que je voudrais vous dire aussi, Carole, avant de donner tout de suite la parole au docteur Sen, c'est écoutez-vous. Si vous prenez quelque chose et que vous sentez mal, écoutez-vous, arrêtez. Je veux dire, c'est peut-être pas, sauf si c'est un médicament, là vous allez voir un médecin, mais écoutez-vous et faites-vous du bien. Perdre du poids, c'est une chose, mais il faut pas se rendre malade. Voilà, maintenant je donne la parole au docteur Sen.
C'est vrai, absolument, Caroline. C'est vrai que cette notion-là de privation, en tout cas, ne peut certainement pas durer dans le temps. Et donc, il est toujours plus intéressant de parler d'adaptation. Et ça, c'est du changement de comportement. Alors que le changement de comportement soit dans l'activité physique ou dans l'alimentation, l'intérêt est d'aller trouver un équilibre qui vous donne du plaisir. Parce que c'est ce plaisir dans le changement de comportement qui va faire que vous allez pouvoir durer et donc pouvoir avoir les bénéfices sur une longue période.
Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, Carole. Est-ce que vous faites de l'activité physique précisément?
Généralement, je n'ai qu'un seul jour, les dimanches, parce que déjà la semaine elle est trop prise. Je n'ai que le dimanche pour faire l'activité physique. Je joue au foot.
Vous jouez au foot et par exemple pour aller travailler, vous y allez à pied ou vous prenez des véhicules motorisés? Vous faites quoi?
Non, déjà que la distance elle est longue, je suis obligé de prendre un transport en commun.
D'accord.
Alors ça, c'est une autre chose qui est vraiment importante. C'est vrai que le fait d'équilibrer son poids est lié évidemment aux apports, mais également au fait que vous alliez augmenter vos dépenses. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le fait quelquefois d'avoir plus de masse musculaire qui va augmenter les dépenses de repos. Parce que on brûle beaucoup plus au repos finalement que lorsqu'on va faire l'activité physique. Il faut quand même faire, bien évidemment, pour pouvoir développer cette masse musculaire. Alors, retenez que il faudra également lutter contre l'effet de sédentarité, c'est-à-dire le fait de d'être assis et d'avoir des activités au repos, en fait, est aussi néfaste pour la santé que le fait de ne pas faire suffisamment d'activité physique. Et donc là, probablement qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur le fait de bouger un petit peu dans les activités de la vie quotidienne, s'arrêter un peu plus loin de son travail et puis finir à pied ou voilà, un certain nombre de choses comme ça.
Carole, vous êtes prêt à changer certaines habitudes, refractionner vos repas, marcher un petit peu plus et surtout laisser tomber le jus de citron, sauf si vous avez mal à la gorge, peut-être avec du miel de temps en temps?
Oui, absolument, merci beaucoup.
Et méfiez-vous. Et sur Internet, hein, pour la santé, c'est pas toujours la meilleure solution. Voilà, enfin, c'est ce qu'a dit Stéphane Besançon, je pense que tout le monde est d'accord avec ça.
Oui, d'accord. Sinon, je voudrais peut-être augmenter quelque chose, si vous voulez dire.
Mm-hmm. Allez-y.
Je sais pas, du côté de chez mon père, j'ai pensé peut-être que ma maman s'est dit par rapport à l'hérédité, parce que déjà, mon père, il est vraiment gros. Mais... Alors, je sais pas si c'est hérédité à quoi.
Bon, alors... Absolument, Carole. Il y a toujours une dimension dans la composition corporelle et dans son physique, évidemment, qui est liée à l'hérédité. Donc ça, on peut pas le dénier. Mais en dehors de l'hérédité, évidemment, vous avez tout de même un pouvoir d'action sur votre poids, sur votre physique. Le pouvoir d'action que vous avez, c'est ce que vous allez manger et à quel moment vous allez le manger. Et c'est également comment vous allez bouger. Ça, c'est votre capacité d'influer au-delà de l'hérédité que vous avez.
Voilà pour cette réponse du docteur Sen. Excellente journée à Bukavu, Carole. On reste en RDC, on part à Lubumbashi, où l'on retrouve Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Carole. Bonjour à RFI.
On vous écoute Jean-Marc.
Oui, ma question est de savoir, est-ce que le système immunitaire est relié étroitement à l'activité physique? Ça va faire neuf encréments que j'ai arrêté avec l'exercice physique, donc la musculation, et depuis un certain temps, je tombe malade et je ne suis pas du tout en bonne forme.
Donc cette question, docteur Sen, le lien entre l'activité physique et la résistance de l'organisme, l'immunité.
Eh bien, c'est démontré. Absolument. On sait que le fait de faire régulièrement de l'activité physique augmente l'efficacité du système immunitaire. Alors, c'est même dans certaines pathologies, hein, décrites, les pathologies de l'immunité, je pense évidemment au VIH, eh bien, on sait que l'on va proposer aux personnes qui souffrent de cette maladie, par exemple, de faire régulièrement de l'activité physique, parce que ça va stimuler leur immunité et ça va augmenter également leur tolérance au traitement. Mais en dehors de cette pathologie un petit peu extrême, on sait que le fait de faire de l'activité physique est bon. Si on en fait beaucoup trop, eh bien, il peut y avoir même un effet un petit peu inverse. On le voit chez des sportifs de haut niveau, hein. Lorsqu'ils sont juste avant une compétition en affûtage et qu'ils sont beaucoup entraînés, eh bien, vous allez toujours les voir couverts parce que sinon, ils vont attraper un rhume ou souvent des petites infections ORL parce que justement, ils ont fait trop d'activité. Et donc, on sait qu'il y a parfaitement ce lien, ni trop ni trop peu, hein, c'est ce que je dis, mais le fait de faire régulièrement de l'activité physique est tout à fait bénéfique pour l'immunité.
C'est pour ça qu'on parle d'entretien, d'ailleurs. Entretien physique.
Absolument.
Donc Jean-Marc, si vous avez arrêté, on peut vous conseiller de reprendre cette activité qui vous faisait du bien, hein, comme vous l'avez décrit très simplement. On vous souhaite une excellente journée à Lubumbashi. On part pour la Guinée, pour Conakry, où Rachid est en ligne avec nous. Bonjour Rachid.
Oui, bonjour Caroline, comment allez-vous?
Ça va bien. Alors on écoute votre question.
Ok, en fait, je remercie d'abord les invités en plus. Ma question est de savoir... ça fait deux semaines que j'ai commencé à pratiquer le sport.
Oui.
Maintenant, ma question est de savoir quels sont les fruits à manger pour améliorer la santé.
Alors, vous dites, vous venez de commencer le sport. Quel sport déjà, Rachid?
Il y a, voilà. Et le foot et en plus le sport.
Vous faites du foot, vous courez.
Oui, oui.
Et vous voudriez savoir, en même temps, à côté de cette activité, quels fruits sont bons pour votre santé quand vous
pour
êtes comme
santé,
ça
oui, pour la santé,
avec
oui.
cette activité sportive.
Oui.
Alors, une question qui est vraiment pour vous deux. On va commencer par Stéphane Besançon. Quels fruits sont bons pour la santé quand on fait du sport en général, quand on a une activité physique?
Alors, l'idée, c'est plus les fruits sur l'aspect santé de manière générale. C'est que c'est très important d'introduire des fruits dans son alimentation. Et j'allais dire lesquels, en général, on a plutôt tendance à parler de diversité. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir, pour n'importe quelle famille d'aliments, une consommation d'un seul type d'aliment et d'aller vers une diversité. Donc, ce qui est cité là, banane, ananas, pomme, ça me semble très bien. Et de varier et d'avoir une consommation importante. Après, pour le sport, j'allais dire, pour certaines choses, c'est plus la capacité, justement, le fait de manger des fruits et des légumes, d'avoir aussi peu de carences et d'être bien dans son corps et de pouvoir faire une bonne activité physique, parce que souvent les gens se plaignent de fatigue, etc., qui ont des difficultés, parce que souvent l'alimentation est pas équilibrée et qu'en fait les gens ayant des carences, ils se sentent un peu moins bien, comme on l'a vu avec l'auditeur précédent. Voilà, pour ma part.
Donc, diversité.
Oui, diversité.
Jean-Marc Sel.
Oui, absolument. Surtout que là, on est dans une reprise d'activité physique. L'idée, c'est effectivement d'avoir une alimentation équilibrée. Et puis, l'autre chose que je note, c'est que cette reprise a eu lieu il y a 2 semaines. Et puis, je crois que vous êtes sinon à un travail de bureau. Et ce travail de bureau, ça veut dire que vous avez, même si vous reprenez un peu d'activité physique, vous avez une activité sédentaire. Et là, on revient sur ces facteurs de risque-là, qui sont le fait de ne pas bouger, même si vous faites un peu de footing, par exemple, à la fin de la journée, le fait de ne pas bouger toute la journée, ce n'est pas une bonne chose. Donc, le conseil, c'est d'essayer toutes les 2-3 heures, eh bien, de bouger, de marcher un petit peu, de faire une mobilité des bras, de faire une mobilité des jambes, pour essayer d'aider un petit peu tout cela. Et puis, ensuite, lorsque vous allez reprendre, si ça fait très peu de temps, c'est l'importance également dans la progressivité. Ça, c'est absolument essentiel, c'est-à-dire de passer de l'absence d'activité physique à une activité physique quotidienne, ça peut quelquefois être beaucoup. Donc il faut essayer, par exemple, de commencer peut-être 2-3 fois par semaine, de manière régulière, d'augmenter peut-être un petit peu la durée, et puis ensuite de passer à 4 fois ou 5 fois pour avoir le temps de récupérer de cette activité. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cela. Et puis surtout, pensez aussi à bien vous hydrater. Pensez à bien vous hydrater, notamment dans la récupération, c'est quelque chose qui va être également très important.
Voilà Rachid pour ces réponses. Il y a une question Facebook qui n'est pas tout à fait liée mais qui ressemble quand même. Stéphane Besançon, c'est Meki qui est en Algérie, qui demande est-ce que les bananes sont bonnes pour soigner la constipation, sont bonnes pour le transit? C'est vrai que des fois on s'interroge sur tel ou tel aliment quand on a des problèmes intestinaux, que ce soit d'ailleurs plutôt des problèmes de diarrhée ou des problèmes de constipation, est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus ou moins bénéfiques?
Alors très clairement, si on parle de la constipation, l'idée c'est pas de nouveau de focaliser sur un fruit mais ou la banane ou un autre, mais ce qui est très très important pour la constipation, c'est l'apport en fibres. Donc l'apport en fibres, très clairement, ça va être les fruits, ça va être les légumes. C'est vraiment important là. Alors c'est la fameuse recommandation française du programme national nutrition santé, les 5 fruits et légumes par jour. Alors, ces 5 portions, il faut bien le redire aux gens, l'idée, parce qu'on a souvent cette question qui revient, c'est pas de manger par exemple 5 choux-fleurs par jour, mais c'est bien des portions. Donc d'avoir très régulièrement des portions de fruits et de légumes, et c'est ça qui va jouer vraiment vraiment sur le transit et qui va permettre d'éviter la constipation. Donc c'est pas de nouveau.
Il y en a pas qui ont des qualités régulatrices davantage que d'autres. Bah, y a l'image dans les familles un peu, c'était la carotte, un peu l'aliment miracle, c'est quelque chose qui est pas démontré au niveau scientifique et de la nutrition.
Non, difficilement, parce que les gens, quand on fait des études comme ça, le risque, c'est d'isoler un aliment et de
et
dire.
Et après, on se retrouve avec le fameux régime miracle et
voilà,
ça recommence.
Et en fait, dans la vraie vie, les gens ne font pas ça. Donc, c'est toujours, il peut y avoir effectivement, dans une étude, à intenter un aliment qui va présenter un intérêt plus qu'un autre. Mais en fait, c'est très compliqué de le recommander tout seul en disant il va avoir cet effet, parce qu'en fait, dans ce qu'on appelle le bol alimentaire, c'est-à-dire quand il est ramené avec le reste, c'est vrai que souvent, ça peut changer ses propriétés. Et c'est pour ça que moi, je préfère dire qu'il faut vraiment relever de manière globale le volume de fruits et de légumes, ce sera beaucoup plus efficace, même si effectivement après on sait qu'il y en a un peu plus de propension que d'autres, ou tout simplement un peu plus de fibres que d'autres. Par exemple, si on prend de la pomme et qu'on la mange et qu'elle est propre et qu'on la mange avec la peau, il va y avoir beaucoup de pectine, de choses comme ça, donc on va relever le niveau de fibres.
Donc la variété. Alors on va prendre un autre auditeur, et c'est une auditrice qui est en ligne du Congo Brazza, de Brazzaville précisément, c'est Enacha qui est en ligne avec nous. Bonjour Enacha.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Enacha.
Et en fait ma question est la suivante.
Oui.
J'ai ma petite sœur qui est âgée de 29 ans et qui mesure 1m63.
Oui.
Mais je voudrais savoir le poids normal qu'elle peut peser parce que elle est en surpoids et je voudrais savoir comment faut-il faire pour qu'elle puisse vite, rapidement perdre quelques kilos qui sont en surpoids.
Et votre sœur pèse combien, Nacha?
Elle pèse 100 kilos.
Et elle veut perdre du poids, elle ne se sent pas bien, on va dire aussi pas bien dans sa peau avec ce poids de 100 kilos, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Alors, Stéphane Besançon, c'est le fameux rapport de corpulence, indice de masse corporelle, 1m63, 100 kilos, mais on l'a déjà souligné, y compris avec vous, ce n'est pas forcément un calcul qui est sûr à 100%, il peut y avoir d'autres considérations.
Alors effectivement, alors il y a deux choses à prendre en compte, c'est que pour des l'indice fonctionne, on va pas peut-être rentrer dans le détail des chiffres, c'est pas très intéressant, mais par palier. Alors là, c'est vrai qu'avec ce poids-là et cette taille-là, on est face à une obésité, donc on est là, il y a pas trop de discussion. Après, c'est quand on est sur les seuils un peu intermédiaires où effectivement, et Jean-Marc le sait bien avec les sportifs, on peut avoir des gens qui vont être dans un indice de léger surpoids, or ils ont que de la masse musculaire. Donc c'est là où il faut faire attention et on prend là un deuxième indicateur qui va être le tour de taille. Et chez un sportif par exemple qui peut avoir un indice un peu haut, on n'aura jamais un tour de taille haut parce qu'il aura des abdominaux, un gainage, etc. Donc ça, là par contre, la question se pose moins parce qu'on est vraiment sur un IMC qui doit dépasser 35 et là on est vraiment sur quelque chose de très important qui nécessite une perte de poids importante pour la santé. Alors après, de dire combien est le poids idéal, c'est très compliqué parce que là aussi on trouve sur internet dès le poids doit être exactement égal à ça, mmh. etc. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, ça dépend aussi de la morphologie de la personne, c'est très dur de donner un poids idéal, mais très clairement par contre là, médicalement, j'allais dire, il faut une perte de poids.
Il faut faire quelque chose. Justement, votre sœur, elle fait de l'activité physique, par exemple. Elle fait un petit peu de sport. Elle marche?
Oui, elle fait un petit peu de sport chaque week-end. Un peu de marche et puis les exercices physiques.
Un petit peu. Est-ce qu'elle sent qu'elle pourrait en faire davantage?
Oui, elle peut faire davantage.
Et au niveau de l'alimentation, par exemple, elle boit des sodas en mangeant, elle mange beaucoup de viande, des repas avec beaucoup de graisse ou de sauce?
Oui, oui.
Donc elle ne contrôle pas pour l'instant vraiment son alimentation?
C'est bien ça.
C'est bien ça. Docteur Sen.
Il y a quelque chose effectivement qui ressort dans tout ce qui est dit là, c'est qu'elle fait de l'activité le week-end. J'insiste encore à nouveau sur le fait qu'il faut en faire un petit peu tous les jours. Ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui aura le plus d'incidence sur votre santé. Aussi, sachez que si votre sœur se remet à faire de l'activité physique, il est possible qu'elle prenne un tout petit peu de masse musculaire. Et au début, elle aura du mal à perdre, enfin, elle perdra pas énormément de poids alors que sa silhouette va se modifier. D'où l'intérêt de mesurer le tour de taille qu'a cité Stéphane tout à l'heure. Mesurer ce tour de taille parce que vous allez voir qu'il va changer en premier avant même le poids.
Et puis ça encourage.
Ça va encourager évidemment à pouvoir continuer et à en faire vraiment un petit peu tous les jours.
Et puis dire aussi à votre sœur Enacha, et là je vais passer la parole à Stéphane Besançon, que si elle a conscience que dans son alimentation il y a des choses qui contribuent à cette prise de poids ou à ce maintien du poids, peut-être réfléchir, sans être trop catégorique, mais réfléchir à ce qu'on peut changer.
Oui, là, ça me semble central quand on parle de ce rapport poids-taille. Il y a réellement un dysfonctionnement alimentaire ou soit une alimentation trop grasse, soit trop volumineuse, soit les deux. Et que là, je pense qu'en plus de l'activité physique, il y a réellement une attention à prendre sur l'alimentation. Donc, il faudrait là, de nouveau, aller voir soit un médecin, soit un nutritionniste, soit les deux, pour qu'ils puissent faire un point global, qu'ils puissent regarder, faire ce qu'on appelle un diagnostic de l'alimentation, regarder et puis proposer des recommandations et commencer à essayer et de voir justement, comme le disait Jean-Marc, elle va voir aussi que petit à petit, il va y avoir une perte de poids, ça va l'encourager et puis elle va changer progressivement son mode de vie.
Pas espérer un changement radical du jour au lendemain. Et Nacha, votre sœur, elle a déjà essayé de retirer, par exemple, certains aliments, en tout cas, qu'on sait qu'ils sont pas bons pour la santé. Je vais citer les sodas, par exemple. Elle a essayé de retirer des choses comme ça?
Oui, elle a essayé de retirer des... Elle essaie petit à petit de retirer quelques aliments qui sont un peu...
Et c'est difficile pour la motivation? C'est difficile?
Ben, c'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile,
elle s'efforce.
Est-ce qu'elle a eu justement des conseils d'un professionnel? Est-ce qu'elle est prête à aller voir quelqu'un justement qui pourrait lui donner des conseils, dire ce qu'il faut faire, ne faut pas faire, etc.?
Oui. D'ici là, on prendra rendez-vous avec une diététicienne pour essayer un peu de l'orienter
dans ses choix et dans ses menus. Très bien, merci beaucoup Enacha. Excellente journée à vous. On va partir pour le Mali, retrouver Maya. Maya, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Maya.
Oui, j'ai des questions en fait. J'aimerais savoir comment bien nettoyer les légumes et les fruits pour bien profiter de leurs bienfaits en fait.
Quand on retire pas la peau, oui. Et vous avez une autre question?
Par exemple, parfois on les trempe longtemps dans de l'eau javelisée ou si on doit les laver avec du savon tout simplement, si c'est suffisant.
Alors,
ma deuxième question.
Oui, allez-y, Maya.
Oui, comment les cuire aussi les légumes? Si on doit privilégier les cuire au four ou bien à la vapeur?
Alors, des questions, Stéphane Besançon, qui ont trait à la préparation alimentaire, hein, important pour les fruits, les légumes, pour maintenir leurs propriétés nutritives. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Maya, peut-être d'abord sur le nettoyage?
Alors, le nettoyage, savon ou petite lessive, chose comme ça, je suis pas très très sûr que ces produits soient faits pour être ingurgités, qu'il en reste des traces. Donc là, je dirais à mon avis danger, parce qu'il y a beaucoup de ces produits-là qui sont pas du tout faits pour être ingurgités, parce qu'il reste toujours des traces sur l'aliment. La javel, effectivement, ça se fait beaucoup. Moi-même, je vis au Mali et je fais, parce que on sait qu'il y a des pays comme ça où le traitement des légumes et des fruits, ou la manière dont ils circulent, il peut y avoir des problèmes et des maladies après peuvent venir. Hein. On sait, par exemple, la typhoïde ou d'autres peuvent se transmettre. Donc c'est vrai qu'il y a une peur. Par contre, là aussi, il faut être très très raisonnable. C'est-à-dire, la javel, c'est très concentré. Une petite goutte, ça suffit largement, parce que des fois, on a ce problème avec des gens après qui viennent en disant on a des problèmes de santé liés à la quantité. Donc à mon avis, le savon et tout ça, il faut faire très attention. La javel, il faut aller très doucement, toute petite goutte, histoire d'être sûr que les produits, s'ils ont circulé, que ça a mal été entretenu, soient propres. Ça, c'est le premier point. La deuxième question pour la cuisson, c'est très lié à la capacité des aliments à garder leur valeur nutritive, notamment les vitamines, les minéraux, et notamment les vitamines, parce que la question qui revient souvent, c'est ce qu'on appelle scientifiquement la thermolabilité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vitamines qui, à haute température, vont avoir tendance à se détruire, ou alors d'autres qui vont avoir tendance à passer dans l'eau de cuisson et du coup on a de la perte. Ce qu'on recommande en général du coup, c'est juste d'éviter, alors ça c'est souvent ce qui va à l'encontre des modes de préparation en Afrique, c'est d'éviter des cuissons trop longues. Or on sait qu'en Afrique des fois les sauces peuvent cuire une demi-heure, une heure trente, et c'est vrai que plus on prolonge la cuisson et la macération, plus on va perdre. Donc il faut plutôt des cuissons courtes et pas des cuissons à trop de température, parce que là aussi plus on va monter à temps de température, plus on va avoir de la matière organique qui va se dégrader. Donc plutôt de la cuisson courte, alors suffisante hein, par contre, attention, quand je dis court, il suffit pas, je dis pas de manger cru, mais d'éviter, comme ça peut se faire des fois, d'avoir des sauces qui vont cuire pendant 1 heure, 1h30, 1h40, et à très haute température.
Voilà pour ces conseils, Maya, on vous souhaite une excellente journée au Mali. On part pour le Sénégal, pour Mbour, où l'on retrouve Jean. Bonjour Jean.
Bonjour.
On vous écoute, Jean.
Bon, bonjour. Moi, j'ai deux questions. C'est par rapport au sport. Moi, je fais du sport pour prendre de la masse musculaire. Mais je me rends compte que quand je fais du sport, j'ai tendance à devenir sec, à maigrir plutôt que de prendre de la masse musculaire. Maintenant, j'aimerais poser la question. Quel sport je devrais faire en particulier pour prendre de la masse musculaire? Et s'il y a une alimentation pour accompagner cela?
La tendance de gens, beaucoup de gens rêvent, c'est que il reste mince quoi qu'il arrive. Et lui, par contre, il aimerait bien avoir un petit peu plus de muscles. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, docteur Sen?
Et oui, absolument. Au Sénégal, on est grand et mince, évidemment. Hein, voilà.
Ça dépend qui. Je parle
en connaissance de cause. Voilà. Alors voilà, Jean. Effectivement, vous désirez prendre cette masse musculaire. Il y a vraiment plusieurs facteurs qui interviennent sur cette prise de masse. masse musculaire. D'abord, il y a la génétique. Eh ben oui, on vient de le dire, il y a la génétique. Si on est sahélien, on a tendance à être grand, fin, c'est le profil. Et ça, on ne peut pas lutter contre. La deuxième chose, c'est évidemment la programmation de l'entraînement. C'est-à-dire, est-ce que vous allez faire véritablement des exercices qui visent à développer cette masse musculaire, c'est-à-dire des exercices de musculation. De musculation, et là encore, vous aurez plusieurs types d'exercices qui permettent ou bien de prendre du volume, hein, ou bien de prendre de la force. Donc ça, c'est une programmation qui existe et qu'il faut bien voir. Si à l'inverse, vous faites des exercices d'endurance, eh bien là, vous allez avoir tendance, si vous ne faites que courir, par exemple, ça peut être, vous pouvez être emmené à perdre un petit peu, de faire de la myolyse, hein, de la lipolyse et de la myolyse, c'est-à-dire à perdre du gras et du muscle, et là, à vous affiner. Et puis enfin, intervient effectivement l'apport dans l'alimentation des protéines, mais l'apport des protéines, ça ne veut pas dire des compléments alimentaires, hein, ça va être des protéines de l'alimentation courante, qui doivent être apportées juste après, c'est ça où c'est le mieux, juste après votre exercice de musculation, dans l'heure. Parce qu'on sait que c'est là qu'elles vont être le mieux assimilées pour pouvoir justement reconstituer le muscle que vous avez travaillé. Donc, j'ai envie de dire trois choses, la génétique, la programmation de votre entraînement et troisièmement, l'alimentation.
Voilà Jean, excellente journée à Hambourg. On part pour le Congo-Brazzaville. Le temps nous presse un petit peu et nous retrouvons sur place Roderick. Bonjour Roderick.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Oui, ben, c'est comme le message que je vous ai laissé sur la page Facebook.
Oui.
La priorité de santé. Bon, mon souci, moi je suis divorcé, ça fait 2 ans de cela, et que je n'ai plus des bonnes heures d'alimentation, ben souvent c'est à partir de 22h, 23h, mon activité professionnelle. Bon, mon souci, j'ai juste un volume du ventre et un peu sportif, je fais un peu de marge au pushing. Je viens le faire à la maison que je soulève, mais mon ventre fait qu'avancer, quoi.
Votre ventre avance. On a lu aussi dans votre...
Excusez-moi, mon ventre fait de grossir, fait de prendre du poids.
Oui, j'ai compris, mais vous avez aussi dit dans votre message Facebook que vous aimez bien aussi boire de temps en temps un bon verre de bière.
Très bien. Très bien, parce qu'après les activités professionnelles, ils prennent, ça dépend d'heure. Moi, peu importe l'heure que je rentre chez moi à la maison, aussi que je vais manger. Après avoir pris ma bière à la cité, si je rentre à 23h, 0h, 1h, quelque chose, j'ai toujours l'appétit pour manger. Voilà mes priorités.
Alors, il nous reste peu de temps pour vous répondre. Je me tourne vers Jean-Marc Sen pour dire dîner tardif, bière égale prise de ventre, c'est mathématique. Voilà.
Alors effectivement, ben oui, la bière c'est extrêmement calorique et donc évidemment ça augmente cette masse grasse, hein, ça c'est évident. Le fait d'augmenter, évidemment, pour perdre ce ventre, il va falloir augmenter votre dépense énergétique, augmenter votre activité physique parce que ça vous permettra de faire ça et puis renforcer les abdos pour pouvoir également diminuer augmenter la tonicité des muscles.
Justement, des exercices précis pour le ventre
les abdos.
Ce bidou ?
Eh ben, alors, on va se mettre sur le dos. On va se mettre sur le dos et on va replier les jambes. On va se mettre sur le dos, on se replie les jambes. On va croiser ses bras sur le torse. Et tout doucement, à peine, on va essayer de lever les épaules. Très légèrement, 2 cm, hein, pas plus, pas besoin de se relever jusqu'au genou. Alors ça va permettre de relever, de travailler une partie des abdominaux. Autre possibilité, on peut garder la même position. Et puis, on va faire en sorte que ses coudes aillent toucher ses cuisses sur le côté pour travailler ce qu'on appelle les obliques. Et puis, dernier exercice. Cette fois-ci, on reste également les bras allongés sur le sol et les genoux, on essaye de les lever vers le plafond, vers le ciel, tout doucement, pareil, 1 cm simplement. Et là, vous avez un travail complet des abdominaux.
Là, faudra réécouter en podcast pour bien noter les exercices. Quelques mots, Stéphane Besançon, pour dire, on a entendu vraiment dans cette émission que le moment du repas, c'était vraiment quelque chose d'essentiel.
Oui, alors je pense que c'est beaucoup, beaucoup revenu. C'est revenu aussi par la capacité des gens à lire des régimes restrictifs sur Internet ou à ce qu'on leur dise restrictif. Donc, s'il faut être vraiment là-dessus, une recommandation simple, il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer de maintenir les 3 repas avec ce qu'on a dit, plutôt un bon petit déjeuner, repas du midi correct et le soir plus léger, et éviter les choses restrictives où on dit que sauter 2 repas, sauter 1 repas, et ça, c'est vraiment, vraiment catastrophique parce que l'organisme n'aime pas du tout ça, il y en a plutôt tendance à arriver à de la prise de poids.
Gardez le bon rythme. Merci beaucoup. Hein. Merci messieurs. Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Merci à vous docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et à très bientôt à tous les deux sur RFI. Lundi, dans Priorité Santé, nous allons parler de la tuberculose. On attend vos questions, prise en charge, prévention et à lundi.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.